primaire à gauche, ce sera Valls pour Sauvant et Roux.
Le premier tour de la primaire organisé par la gauche a lieu dimanche 22 et parmi les candidats, c'est l'ancien Premier ministre qui a les faveurs de deux des trois parlementaires des Alpes de Haute-Provence, le sénateur Jean-Yves Roux et le député Gilbert Sauvant, que nous entendrons dans un instant, se rangent donc derrière Manuel Valls. Ils auraient préféré que François Hollande lui-même se représente. Ils donneront cependant leur voix à Manuel Valls qui a conduit le gouvernement jusqu'à l'annonce surprise du président de la République. Tous deux reconnaissent que les fruits de la politique menée pendant 5 ans tardent à venir, mais ils assument les choix réalisés dans une période dominée par la montée du chômage et les actes terroristes. Je vous propose d'écouter Gilbert Sauvant, député de la première circonscription des Alpes de Haute-Provence. Il explique les raisons de son choix, mais revient aussi sur le cas de l'article 49.3 de la Constitution, utilisé par le Premier ministre, mais que le candidat Valls voudrait supprimer. Enfin, il revient aussi et surtout sur le choix du troisième parlementaire du 04, Christophe Castaner, député maire de Fort-Calquier, pour l'instant socialiste, mais qui depuis des mois s'est rangé derrière Emmanuel Macron, qui est candidat à l'élection présidentielle, mais pas à la primaire actuelle. Gilbert Sauvant, avec votre collègue sénateur Jean-Yves Roux, vous soutenez Manuel Valls dans la campagne des primaires. Pour quelles raisons ?
Alors tout à fait. Hein. Donc moi, j'ai toujours été un fidèle de François Hollande. Hein. Je ne m'attendais pas à cette décision de ne pas se présenter à cette élection. Donc quand il a annoncé cette nouvelle, bien entendu, il fallait se repositionner sur un candidat. Et le candidat qui est celui qui est la continuité de François Hollande, c'est donc Manuel Valls. Manuel Valls qui a été le premier ministre de François Hollande pendant ces 5 dernières années et qui aujourd'hui dit « je suis candidat et je porte donc tout ce qui a été fait par l'ancien président de la République avec courage ». Et donc je crois que là aussi, moi, ça m'a beaucoup touché parce que, si vous voulez, quand ça va mal, souvent les rats ils quittent le navire. Tandis que là, il est le seul, pour ne pas dire, à porter entièrement la responsabilité de tout ce qui s'est fait durant la dernière mandature présidentielle. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et puis aujourd'hui, après m'être quand même attelé à regarder la position de Manuel Valls, elle a beaucoup évolué. Il était, il y a quelques années, le fervent socialiste de droite. Aujourd'hui, il a mis de l'eau dans son vin. Et moi, je le vois au travers de sa campagne. Donc, tout ce qu'il propose, c'est aussi un certain nombre d'actions, mais toujours en partenariat avec, avec les acteurs sociaux et économiques. Et je crois que ça, c'est important.
Cependant, à cause du calendrier, à cause de la défection de François Hollande, il est quelque part obligé d'improviser une campagne.
Or, improviser, ce n'est pas vraiment le terme. Je crois que, comme il est dans la continuité de François Hollande, bon nombre de choses, il souhaite donc le mettre en œuvre. Des choses qui ont été décidées par François Hollande et voir si le gouvernement a dit oui. Il improvise pas. Je crois qu'il est dans la continuité de ce que faisait François Hollande en donnant un élan supplémentaire. Je crois qu'il a une vision aussi sur le plan économique et le développement économique qui est très intéressant. Il a aussi une vision de la France pour son positionnement au niveau européen et international qui n'est pas neutre. Il a une vision aussi de tout ce qui est aspect social pour nos populations. Et je crois que tout ça doit être de nature à équilibrer une politique nationale.
Comment expliquer cependant, après avoir utilisé le 49.3 à des moments clés, le vote de la loi El Khomri, qu'il veuille maintenant le supprimer de la Constitution?
Écoutez, je crois que ça devra faire l'objet d'une discussion plus poussée sur doit-on donc faire disparaître le 49.3 ou pas. Moi, si vous voulez, c'est vrai que le 49.3, finalement, quand on applique cette règle, écoutez, on n'a pas la légitimité du Parlement, puisqu'on ne saisit pas et qu'on le fait arbitrairement. Donc on n'est pas dans une décision démocratique. Donc c'est vrai que moi je préfère que ça vienne à l'Assemblée, que ça aille au Sénat et qu'on sorte un texte qui a été validé par nos assemblées, plutôt que de dire voilà c'est comme ça et comme ça, point barre. Bon, c'est vrai que le 49.3 est très peu utilisé, très peu. Il a été utilisé dernièrement et c'est le grief qu'on lui fait, mais en même temps, si vous voulez, il y a des moments aussi pour assurer une majorité. Il faut prendre des mesures un peu directives. Pourquoi ? Parce que si au sein de votre majorité, Mais les avis sont divisés. C'est compliqué de mettre en œuvre des textes. Hein. Et quand on a le sentiment qu'un texte, quand on le fait, c'est pour le bien général, l'intérêt général, eh ben on a tendance à dire non, là, on peut pas transiger et on peut pas moduler la décision. Et donc, on applique le 49.3. Je crois que le 49.3 n'est pas quelque chose de qu'il faut mettre en œuvre quotidiennement et tout le temps. Il faut que les parlements puissent s'exprimer, parce que ça donne de la force et de la légitimité à la décision. Cela étant, à des moments, si c'est l'intérêt de la France, moi je pense que sous certaines conditions, c'est bien. Alors, faut-il saisir les plus hautes instances de notre pays, hein, je veux dire, pour au préalable pour disposer du 49.3, bon, je ne sais pas. Mais peut-être il y a une formule à trouver de manière à ce que les sages puissent donner un avis avant d'appliquer le 49.3.
Gilbert Sauvent, revenons dans les Alpes de Haute-Provence, si vous voulez bien. Le troisième parlementaire, qui est Christophe Castaner, a lui apporté depuis longtemps son soutien à Emmanuel Macron, qui ne bénéficie pas, lui, d'une carte du Parti Socialiste et encore moins d'une investiture. Comment vous regardez la position de votre collègue Bazalpin?
Bah écoutez, moi je respecte la position de chacun, hein, vous le savez. On est des démocrates, même si nous sommes dans la même famille. Bon, moi je regrette un peu que Christophe ait pris cette direction. Alors, moi je pense qu'il aurait pu se déterminer pour Macron, comme moi je le fais pour Valls ce matin. Hein. Mais j'aurais préféré, mais de façon beaucoup plus ouverte, que Macron soit candidat à ses primaires socialistes, ça aurait été très bien. Que Christophe Castaner le soutienne et vienne là au point presse, etc., pour le soutenir, je l'entends parfaitement, parce que chacun a son avis, quoi. Hein. Mais le fait de vouloir se dispenser de cette discussion démocratique au sein de son parti, bon, c'est pas la règle. Voilà. Donc la règle, c'est dire, quand on ne respecte pas les règles du parti, se pose toujours la question, doit-on rester au parti ? Bon, moi, je ne suis pas trop virulent là-dessus parce que je me dis que moi, aujourd'hui, comme socialiste, je ne vois pas d'autre candidat que Christophe Castaner sur la deuxième circonscription. Et donc, du coup, je ne vais pas prôner pour le destituer de sa candidature, je ne vais pas prôner pour lui enlever la carte du Parti Socialiste. Demain, si les choses ne bougent pas, ben, il sera le candidat et il sera élu, parce qu'il a fait un bon mandat, il a bien travaillé, donc il a ce défaut d'aller vers Macron. Est-ce que c'est de l'opportunisme ou pas? On le verra. Mais en même temps, je préfère avoir un Christophe Castaner élu dans la première circonscription qu'un républicain ou une républicaine.
Enfin, on le sait, cette élection des primaires est un moment où le Parti Socialiste joue gros. Comment la réussir ici, dans les Alpes d'Haute-Provence?
Ben, vous voyez, alors, toute notre difficulté, c'est de faire savoir qu'il y a une primaire, déjà. Premier point. Alors, moi, je remercie les journalistes qui étaient là à l'instant, qui, je l'espère, vont quand même faire des articles sur, justement, pour demander, comme nous l'avons fait, à ce qu'il y ait un maximum de gens de gauche, les gens qui se retrouvent dans la gauche, pour venir voter à ces primaires de manière à désigner notre candidate ou notre candidat. Mais c'est difficile, parce que comment assurer une très bonne communication là-dessus? Compliqué, quoi. Hein. Nous, aujourd'hui, au niveau du fonctionnement de notre fédération, on ne peut pas dire que ça fonctionne extrêmement bien, puisque notre collaboratrice n'est pas là, puisqu'elle a des problèmes de santé. Et donc, du coup, on est un peu gêné aux entournures. Donc, on essaye quand même de mobiliser le plus grand nombre pour que cette élection aux primaires se fasse démocratiquement et avec un nombre important de votants, de manière à donner de la crédibilité à ce vote.